Bonsoir à tous, il est 16h à Bamako, Dakar et en temps universel, 17h à Kinshasa et N'Djamena, 11h ici à Washington. Claire Morin-Gibourg avec vous en direct, bienvenue dans notre bulletin d'information. Au Tchad, des tirs sporadiques d'armes automatiques ont retenti cet après-midi à N'Djamena, la capitale, aux abords du QG d'un parti de l'opposition assiégé par l'armée. La nuit dernière, une attaque a visé des bureaux des puissants services de renseignement faisant plusieurs morts à N'Djamena. Le gouvernement a alors accusé des éléments du PSF, le Parti Socialiste Sans Frontières, mené par l'opposant Yaya Dillo. Et l'armée avait été déployée autour du siège du PSF. L'attaque intervient au lendemain de l'annonce du calendrier de l'élection présidentielle au Tchad, dont le premier tour aura lieu le 6 mai, et à laquelle le président de transition, Mahamat Idriss Déby, et Yaya Dillo sont candidats. En République démocratique du Congo, la mission de l'ONU a amorcé son retrait du pays au cours d'une cérémonie à la base de Kamanyola dans le sud Kivu, tout près des frontières avec le Rwanda et le Burundi. Les drapeaux des Nations Unies et du Pakistan, le pays d'origine des casques bleus qui en avaient la responsabilité, ces drapeaux ont été remplacés par celui de la RDC. Après 25 ans de présence, le départ des casques bleus a été acté en décembre par le Conseil de sécurité des Nations Unies, malgré ses inquiétudes sur l'escalade de la violence dans l'Est congolais. En visite à Moscou, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a salué aujourd'hui ce qu'il a appelé des avancées considérables dans le domaine de la sécurité pour son pays, réalisé selon lui grâce à l'aide de la Russie. Monsieur Diop a rencontré donc son homologue russe, Sergueï Lavrov, et il a réitéré l'engagement des plus hautes autorités maliennes pour renforcer la relation bilatérale stratégique entre la Russie et le Mali. Au Sénégal, le président Macky Sall doit présider ce mercredi un conseil des ministres au cours duquel devrait être présenté un projet d'amnistie générale. L'amnistie est un des éléments de sa réponse à la crise provoquée par l'ajournement de la présidentielle qui devait avoir lieu dimanche dernier.
Restez branchés sur VOA Afrique à Goma sur 96.2 FM.
Ici, aux États-Unis, le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump ont remporté les primaires de leurs partis respectifs dans l'État du Michigan hier. Les résultats de ces primaires ont été scrutés car l'État abrite la plus grande concentration d'Arabes américains du pays. Les critiques suite au soutien de M. Biden à la guerre menée par Israël à Gaza avaient conduit certains démocrates à appeler les électeurs à choisir non engagés au lieu de voter pour M. Biden. Les présidents de 23 chambres parlementaires européennes ont demandé hier au président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, de débloquer une enveloppe de 60 milliards de dollars d'aide pour l'Ukraine. Les États-Unis ne parviennent pas à voter cette aide supplémentaire, en dépit de l'insistance du président américain Joe Biden. Les funérailles de l'opposant russe Alexei Navalny auront lieu vendredi après-midi à Moscou. C'est ce qu'a annoncé son équipe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. En déplacement à Strasbourg devant le Parlement européen, sa veuve Yulia Navalnaya dit redouter des arrestations. La branche armée du Hamas palestinien a annoncé aujourd'hui avoir lancé des dizaines de roquettes sur le nord d'Israël à partir du Liban alors que les combats s'intensifient entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne. D'autre part, plus de 50 journalistes travaillant pour des télévisions britanniques et américaines, dont la BBC et CNN. Eh bien, ces journalistes ont écrit au gouvernement israélien et égyptien afin de demander un accès libre et sans entrave à Gaza pour les médias étrangers. Et puis pour finir, la Grèce commémore ce mercredi la catastrophe ferroviaire la plus meurtrière de son histoire qui avait fait 57 morts il y a un an, un traumatisme national selon le Premier ministre. Plus de 30 000 personnes ont manifesté. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com ainsi que sur nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. C'était Claire Morin-Gibourg. Je vous retrouve dans une petite heure pour faire un nouveau point sur l'actualité.
Nanique Talani pour la Minute Éco sur VOA Afrique. Le Nigeria prévoit de résoudre ses problèmes chroniques d'électricité en réglant les dettes impayées d'environ 2,16 milliards de dollars aux producteurs d'énergie et en s'attaquant aux pénuries d'approvisionnement en gaz des entreprises de production, selon le ministère de l'Électricité. Le pays dispose d'une capacité installée de 12 500 MW, mais n'en produit qu'un quart environ, ce qui oblige les ménages, les entreprises et les PME à recourir à des générateurs diesel et à essence. En Afrique du Sud, le secteur de l'électricité aura besoin d'investissements privés accrus alors que la compagnie publique Eskom, criblée de dettes, met en œuvre des réformes structurelles et construit de nouvelles infrastructures essentielles, a affirmé le conseil d'administration d'Eskom. Nous aurons probablement besoin de près de 350 milliards de rands au cours des 10 prochaines années pour construire l'infrastructure de transport. Pour terminer, le Kenya prévoit de réduire son déficit budgétaire à 3,9% du PIB pour 2024-2025, tout en essayant de préserver les dépenses de soutien à la croissance, a déclaré le ministère des Finances dans sa politique budgétaire. Pour couvrir le déficit, le gouvernement mobilisera 326 milliards de shillings de financement extérieur net et 367,7 milliards de shillings supplémentaires d'emprunt intérieur net.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.
Mal.